Audiolib présente
Au revoir là-haut
de Pierre Lemaître. Lu par l'auteur.
À Pascaline, pour mon fils Victor, avec mon affection. Je te donne rendez-vous au ciel où j'espère que Dieu nous réunira. Au revoir là-haut, ma chère épouse. Dernier mot écrit par Jean Blanchard, le 4 décembre 1914. Première partie. Novembre 1918. Chapitre 1. Ceux qui pensaient que cette guerre finirait bientôt étaient tous morts depuis longtemps, de la guerre, justement. Aussi, en octobre, Albert reçut-il avec pas mal de scepticisme les rumeurs annonçant un armistice. Il ne leur prêta pas plus de crédit qu'à la propagande du début qui soutenait, par exemple, que les balboches étaient tellement molles qu'elles s'écrasaient comme des poires blettes sur les uniformes, faisant hurler de rire les régiments français. En 4 ans, Albert en avait vu un paquet des types morts de rire en recevant une balle allemande. Il s'en rendait bien compte, son refus de croire à l'approche d'un armistice tenait surtout de la magie. Plus on espère la paix, moins on donne de crédit aux nouvelles qu'il annonce, manière de conjurer le mauvais sort. Sauf que, jour après jour, ces informations arrivèrent par vagues de plus en plus serrées et que, de partout, on se mit à répéter que la guerre allait vraiment prendre fin. On lut même des discours, c'était à peine croyable, sur la nécessité de démobiliser les soldats les plus vieux qui se traînaient sur le front depuis des années. Quand l'armistice devint enfin une perspective raisonnable, l'espoir d'en sortir vivant commença à tarauder les plus pessimistes. En conséquence de quoi, question offensive, plus personne ne fut très chaud. On disait que la 163e DI allait tenter de passer en force de l'autre côté de la Meuse, quelques-uns parlaient encore d'en découdre avec l'ennemi, mais, globalement, vu d'en bas, du côté d'Albert et de ses camarades, depuis la victoire des Alliés dans les Flandres, la libération de Lille, la déroute autrichienne et la capitulation des Turcs, on se sentait beaucoup moins frénétique que les officiers. La réussite de l'offensive italienne, les Anglais à Tournai, les Américains à Châtillon, on voyait qu'on tenait le bon bout. Le gros de l'unité se mit à jouer la montre et on discerna une ligne de partage très nette entre ceux qui, comme Albert, auraient volontiers attendu la fin de la guerre, assis là, tranquillement, avec le barda, à fumer et à écrire des lettres, et ceux qui grillaient de profiter des derniers jours pour s'étriper encore un peu avec les boches. Cette ligne de démarcation correspondait exactement à celle qui séparait les officiers de tous les autres hommes. Rien de nouveau, se disait Albert, les chefs veulent gagner le plus de terrain possible, histoire de se présenter en position de force à la table des négociations. Pour un peu, ils vous soutiendraient que conquérir 30 mètres peut réellement changer l'issue du conflit et que mourir aujourd'hui est encore plus utile que mourir la veille. C'est à cette catégorie qu'appartenait le lieutenant d'Aulnay-Pradel. Tout le monde, en parlant de lui, laissait tomber le prénom, la particule, le Aulnay, le tiret, et disait simplement Pradel, on savait que ça le foutait en pétard. On jouait sur du velours parce qu'il mettait un point d'honneur à ne jamais le montrer. Réflexe de classe. Albert ne l'aimait pas. Peut-être parce qu'il était beau. Un type grand, mince, élégant, avec beaucoup de cheveux ondulés d'un brun profond, un nez droit, des lèvres admirablement dessinées et des yeux d'un bleu foncé. Pour Albert, une vraie gueule d'empeigne. Avec ça, l'air toujours en colère. Un gars du genre impatient qui n'avait pas de vitesse de croisière. Il accélérait ou il freinait. Entre les deux, rien. Il avançait avec une épaule en avant, comme s'il voulait pousser les meubles, il arrivait sur vous à toute vitesse et il s'asseyait, brusquement. C'était son rythme ordinaire. C'était même curieux, ce mélange. Avec son allure aristocratique, il semblait à la fois terriblement civilisé et foncièrement brutal. Un peu à l'image de cette guerre. C'est peut-être pour cela qu'il s'y trouvait aussi bien. Avec ça, une de ses carrures, l'aviron sans doute, le tennis. Ce qu'Albert n'aimait pas non plus, c'était ses poils. Des poils noirs, partout, jusque sur les phalanges, avec des touffes qui sortaient du col juste au-dessous de la pomme d'Adam. En temps de paix, il devait sûrement se raser plusieurs fois par jour pour ne pas avoir l'air louche. Il y avait certainement des femmes à qui ça faisait de l'effet, tous ces poils, ce côté mâle, farouche, viril, vaguement espagnol, rien que Cécile, enfin, même sans parler de Cécile, Albert ne pouvait pas le blairer, le lieutenant Pradel. Et surtout, il s'en méfiait. Parce qu'il aimait charger, monter à l'assaut, attaquer, conquérir lui plaisait vraiment. Depuis quelque temps, justement, il était moins fringant qu'à l'accoutumée. Visiblement, la perspective d'un armistice lui mettait le moral à zéro, le coupait dans son élan patriotique, l'idée de la fin de la guerre, le lieutenant Pradel, ça le tuait. Il montrait des impatiences inquiétantes. Le manque d'entrain de la troupe l'embêtait beaucoup. Quand il arpentait les boyaux et s'adressait aux hommes, il avait beau mettre dans ses propos tout l'enthousiasme dont il était capable, évoquer l'écrasement de l'ennemi auquel une dernière giclée donnerait le coup de grâce, il n'obtenait guère que des bougonnements assez flous, les types opinaient prudemment du bonnet en piquant du nez sur leur godillot. Ce n'était pas seulement la crainte de mourir, c'était l'idée de mourir maintenant. Mourir le dernier, se disait Albert, c'est comme mourir le premier, rien de plus con. Or, c'est exactement ce qui allait se passer. Alors que jusqu'ici, dans l'attente de l'armistice, on vivait des jours assez tranquilles, brusquement, tout s'était emballé. Un ordre était tombé d'en haut, exigeant qu'on aille surveiller de plus près ce que faisaient les Boches. Il n'était pourtant pas nécessaire d'être général pour se rendre compte qu'ils faisaient comme les Français, qu'ils attendaient la fin. Ça n'empêche, il fallait y aller voir. À partir de là, plus personne ne parvint à reconstituer exactement l'enchaînement des événements. Pour remplir cette mission de reconnaissance, le lieutenant Pradel choisit Louis Thérieux et Gaston Grisonnier. Difficile de dire pourquoi, un jeune et un vieux, peut-être l'alliance de la vigueur et de l'expérience, en tout cas, des qualités inutiles parce que tous deux survécurent moins d'une demi-heure à leur désignation. Normalement, ils n'avaient pas à s'avancer très loin. Ils devaient longer une ligne nord-est, sur quoi 200 mètres, donner quelques coups de cisaille, ramper ensuite jusqu'à la seconde rangée de barbelés, jeter un œil et s'en revenir en disant que tout allait bien, vu qu'on était certain qu'il n'y avait rien à voir. Les deux soldats n'étaient d'ailleurs pas inquiets d'approcher ainsi de l'ennemi. Vu le statu quo des derniers jours, même s'ils les apercevaient, les Boches les laisseraient regarder sans retourner, ce serait comme une sorte de distraction. Sauf qu'au moment où ils avançaient, courbés le plus bas possible, les deux observateurs se firent tirer comme des lapins. Il y eut le bruit de balles, trois, puis un grand silence. Pour l'ennemi, l'affaire était réglée. On essaya aussitôt de les voir, mais comme ils étaient partis côté nord, on ne repérait pas l'endroit où ils étaient tombés. Autour d'Albert, tout le monde en eut le souffle coupé. Puis il y eut des cris, « Salauds, les Boches sont bien toujours pareils, quelle sale engeance, des barbares, etc. » En plus, un jeune et un vieux, ça ne changeait rien. Mais dans l'esprit de tous, les Boches ne s'étaient pas contentés de tuer deux soldats français. Avec eux, ils avaient abattu deux emblèmes. Bref, une vraie fureur. Dans les minutes qui suivirent, avec une promptitude dont on les savait à peine capables, depuis l'arrière, les artilleurs balancèrent des giclées de 75 sur les lignes allemandes, à se demander comment ils avaient été informés. Après l'engrenage, les Allemands répliquèrent. Côté français, il ne fallut pas longtemps pour rassembler tout le monde. On allait leur régler leur compte à ces cons-là. C'était le 2 novembre 1918. On ne le savait pas encore. On était à moins de 10 jours de la fin de la guerre. Et attaqué le jour des morts en plus, on a beau ne pas trop s'attacher aux symboles. Et nous voilà de nouveau harnachés, pensa Albert, prêts à escalader les échafauds, c'est comme ça qu'on appelait les échelles utilisées pour sortir de la tranchée, vous parlez d'une perspective, et à foncer la tête la première vers les lignes ennemies. Tous les gars en file indienne, tendus comme des arcs, peinaient à avaler leur salive. Albert était en troisième position, derrière Berry, et le jeune Péricourt qui se retourna, comme pour vérifier que tout le monde était bien là. Leurs regards se croisèrent. Péricourt lui sourit, un sourire d'enfant qui s'apprête à faire une bonne blague. Albert tenta de sourire à son tour, mais il n'y parvint pas. Péricourt revint à sa position. On attendait l'ordre d'attaquer. La fébrilité était presque palpable. Les soldats français, scandalisés par la conduite des Boches, étaient maintenant concentrés sur leur fureur. Au-dessus d'eux, les obus striaient le ciel dans les deux sens et secouaient la terre jusque dans les boyaux. Albert regarda par-dessus l'épaule de Berry. Le lieutenant Pradel, monté sur un petit avant-poste, scrutait les lignes ennemies à la jumelle. Albert reprit sa position dans la file. S'il n'y avait pas eu autant de bruit, il aurait pu réfléchir à ce qu'il tracassait, mais les sifflements suraigus se succédaient, interrompus par des explosions qui vous faisaient trembler de la tête aux pieds. Allez-vous concentrer dans ces conditions-là? Pour le moment, les gars sont dans l'attente de l'ordre d'attaquer. L'occasion n'est donc pas mauvaise pour observer Albert. Albert Maillard. C'était un garçon mince, de tempérament légèrement lymphatique, discret. Il parlait peu. Il s'entendait bien avec les chiffres. Avant la guerre, il était caissier dans une filiale de la Banque de l'Union parisienne. Le travail ne lui plaisait pas beaucoup, il y était resté à cause de sa mère. Madame Maillard n'avait qu'un fils et elle adorait les chefs. Alors, bien sûr, Albert, chef d'une banque, vous parlez, elle avait été immédiatement enthousiaste, convaincue qu'avec son intelligence, il ne tarderait pas à se hisser au sommet. Ce goût exacerbé pour l'autorité lui venait de son père, adjoint au sous-chef de bureau au ministère des Postes, qui concevait la hiérarchie de son administration comme une métaphore de l'univers. Madame Maillard aimait tous les chefs, sans exception. Elle n'était pas regardante sur leur qualité ni sur leur provenance. Elle avait des photos de Clémenceau, de Maurras, de Poincaré, de Jaurès, de Joffre, de Briand. Depuis qu'elle avait perdu son mari, qui commandait une escouade de surveillants en uniforme au musée du Louvre, les grands hommes lui procuraient des sensations inouïes. Albert n'était pas chaud pour la banque, mais il l'avait laissé dire avec sa mère, c'est encore ce qui marchait le mieux. Il avait quand même commencé à tirer ses plans. Il voulait partir, il avait des envies de Tonkin assez vagues, il est vrai. En tout cas, quitter son emploi de comptable, faire autre chose. Mais Albert n'était pas un type rapide, tout lui demandait du temps. Et très vite, il avait eu Cécile, la passion tout de suite, les yeux de Cécile, la bouche de Cécile, le sourire de Cécile et forcément après, les seins de Cécile, le cul de Cécile. Comment voulez-vous penser à autre chose ?